France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. En novembre 1975, Léo Ferré réalise son rêve en dirigeant les musiciens de l'orchestre Pas de Loup sur la scène du Palais des Congrès pour une série de concerts dans un programme où se mêlaient des œuvres du répertoire classique et ses propres chansons. À cette occasion, Claude Maupomet le recevait sur les ondes de France Musique pour son émission Le Concert Égoïste. Tout en commentant le programme musical de son choix, Léo Ferré nous raconte ses premiers pas d'artiste, ses souvenirs de jeune chanteur à la maîtrise de la cathédrale de Monaco, son expérience de chef d'orchestre et ses liens passionnels avec la musique de Mozart, Beethoven et Ravel. Voici aujourd'hui le premier volet du concert égoïste de Léo Ferré. Nous étions le 14 novembre 1975.
Le concert égoïste de Léo Ferré.
Pour bien jouer, il faut se prendre pour l'autre. Car je dis aux instrumentistes, si vous n'êtes pas Beethoven, vous ne pouvez pas jouer Beethoven. Hein? Et ça lui ferait très plaisir que vous preniez pour lui, en jouant, même ceux qui comptent les mesures. Parce qu'en comptant les mesures, il faut écouter tout le reste. Et j'ai demandé à un violoncelliste, vous jouez votre partie, bon, comme ça, comment ça marche quand ça marche bien. Et il me dit, mais on a l'impression de tout jouer, parce qu'on écoute.
Voilà. 4 à 45.
Si ta mère fit un pied foireux, et tu naquis de sa colique. Formidable, non ?
Un artiste, il ne sait jamais d'abord que lorsqu'il est petit, qu'il est artiste. On lui fait bien sentir, mais à contre-courant, la musique ne nourrit pas son homme, combien de fois me l'a-t-on dit ? À quoi je réponds maintenant, si vous saviez combien de gens j'ai nourri avec ma musique depuis que j'en fais ? C'est vrai, d'une façon simple d'ailleurs, mais une sorte de revanche de la vie.
Je crois qu'on a essayé de vous faire autre chose, une autre carrière, non ? Si j'ai bonne mémoire, on a essayé de vous pousser vers... Ce serait pas la diplomatie presque, enfin ?
Non,
le droit en tout cas.
Oui, le droit. Et puis j'ai fait ça pour éviter tous les ennuis familiaux comme ça, parce que j'avais compris que la musique c'était une chose, c'était une espèce de maladie que j'amenais dans la famille, quoi. Alors je m'étais débrouillé pour dire, je vais faire autre chose, je vais... Le droit, c'était bien peinard au fond. Je suis venu à Paris, j'ai mis très longtemps, j'ai mis 4 ans pour faire mon droit. Puis à cette occasion-là, j'ai fait les sciences politiques, vous voyez. J'allais à l'école libre des sciences politiques rue Saint-Guillaume. Enfin, c'était un peu une blague, tout ça, pour moi, n'est-ce pas ? Et j'étais comme l'autruche, je me cachais de la musique parce que j'avais abandonné toute idée de faire de la musique. Et puis, au fond, je ne savais pas si j'étais doué. On me disait tellement, la musique, il faut apprendre. Et moi, je crois que la musique, il ne faut pas apprendre. Bien sûr, on apprend des choses. Et lorsqu'on a affaire à d'autres... que soi-même, c'est-à-dire à des musiciens. Bon, il faut écrire de la musique, il y a des instruments qu'il faut connaître. Ça s'apprend, mais ça n'est pas tellement difficile. Mais je pense qu'au fond, profondément, la musique ne s'apprend pas. Et on m'avait tellement persuadé que ça s'apprenait. Bon, je me dis, c'est fini, c'est terminé, moi je ne serai pas musicien, vous comprenez. Et malgré moi, c'est venu quand même. Vous savez, le destin vous pousse, malgré vous, je pense. Le destin, c'est bien commode de parler de destin, mais enfin, ça explique les choses inexplicables. J'ai de la voix, c'est-à-dire je chante. Bon, je chantais quand j'étais à l'école, au collège. On allait à la messe tous les jours, c'était un collège religieux. Et donc j'étais jeune soprano et je chantais, j'étais soliste à la maîtrise. Ça m'a appris à connaître la musique, surtout à connaître l'harmonie, à entendre des choses qui se chantaient en même temps que moi, puisque moi je chantais la voix de soprano. Il y avait tout de même les autres voix qui venaient avec moi et je prenais un plaisir fou, extraordinaire, vous comprenez. C'était pour moi, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas les disques comme aujourd'hui, il y avait quelques disques, mais en fait c'était tout à fait le début. Moi je parle de 1925-26, donc. Et c'était une grande affaire pour moi, bien sûr. Donc, pendant l'occupation, j'écrivais de la musique, je jouais au piano des choses, et je travaillais avec une dame que je connaissais, qui était plus âgée que moi, qui était une brave camarade. Elle me donnait ses textes, elle écrivait les textes à la machine, comme ça, vite fait, elle me disait, Léo, regarde ce que j'ai pondu. Alors je prenais ça, je le mettais en musique immédiatement, n'est-ce pas? Mais un jour, j'ai lu tout ça, j'ai vu que ça n'était pas... C'était plutôt élémentaire, et je me suis dit, il va falloir que je trouve quelqu'un. Et puis alors, je me suis mis, moi, à écrire des paroles sur ma musique, pour me permettre de chanter, et au fond, pour pouvoir chanter, pour gagner ma vie très, 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 très mal, au début, bien sûr, et ce qui me permettait de me publier. Si je n'avais pas eu de voix, j'aurais peut-être écrit de la musique, mais je n'aurais pas écrit de chansons, parce que personne ne m'aurait jamais chanté, n'est-ce pas? Et donc après, j'ai été dans l'engrenage, et puis j'ai chanté longtemps, quoi. Des chansons, bien ou mal, mais enfin des chansons que j'écrivais.
Je t'ai rencontré par hasard ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes, sans se connaître, on s'est aimé. Et même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans, qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est pas le même. Cette fameuse fin du mois qui depuis connaît toi et moi nous revient 7 fois par semaine, et nos soirées sans cinéma, et mon succès qui ne vient pas, et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié dans ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en. Mon pauvre amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux, nous allons vieillir. Chacun pour soi, comme c'est triste, tu peux remporter le phono, moi je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Plus tard, sans trop savoir pourquoi, un étranger, un maladroit, misant mon nom sur une affiche, parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, il lui dira que je m'en fiche.
Ah oui, ça remonte loin, ça, oui.
« Au vos somnes » de Victoria. Est-ce que c'est un souvenir de...
J'étais tout petit, j'avais 7 ans, j'ai chanté à la maîtrise de Monaco, qui était dirigée par un type qui aimait beaucoup la musique et qui avait beaucoup fait pour la maîtrise, qui était un chef de chorale et beaucoup de talent, qui s'appelait l'abbé Perruchot. Et je me rappelle, j'avais 7 ans et demi, je crois, et je chantais la voix de soprano dans... J'étais dans les sopranes de ces motets, notamment The Ovos Homeless de Davitoria, et qui est une œuvre extraordinaire. C'est un peu Palestrina, mais c'est peut-être un peu plus romantique que Palestrina. Et ce qui me fascine, c'est Davitoria et Palestrina, c'est cette maîtrise de l'écriture chorale. Très souvent à huit voix, enfin, même plus, c'est avec ces voix qui vont, ces dentelles qui se rejoignent, toujours d'une façon d'abord très consonante, et puis ça a l'air d'être aussi de la musique moderne, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, pour moi, il n'y a pas de musique moderne, il y a la musique, et alors ça, c'est un exemple faramineux de maîtrise et de romantisme aussi, puis de classicisme absolu, enfin, des choses, c'est du marbre.
Ovo Somnes de Victoria par l'ensemble vocal Philippe Caillard.
Oui, vous savez, je suis ému parce que c'était extraordinaire pour moi, c'était une découverte pour le petit garçon que j'étais, sans savoir ce que j'étais vraiment, et découvrir ça, parce que j'avais 7 ans et demi, et jeune soprano à maîtrise de Monaco. Vous savez, c'est une époque pas si lointaine que ça, puisque je vis encore. Et on n'allait pas, ces jeunes disquaires, acheter des disques avec, ou acheter tout d'un coup les 9 symphonies de Beethoven, puis, ou tous les motets de Palestrine. Non, on prenait froid, on prenait des risques, on allait quelque part. Moi, j'avais une petite pèlerine bleu lavande, je me souviens. J'habitais chez une cousine de ma mère. J'étais chez elle m'élevait un peu. Et je rentrais par l'entrée des artistes. C'est-à-dire, par la sacristie, on montait là où il y avait l'orgue. Et le premier jour où on a répété ça ensemble, parce qu'on m'avait appris ma partie avant, bien sûr, ça a été quelque chose d'extraordinaire, beaucoup plus extraordinaire qu'aujourd'hui, enfin. C'était la divinité, quoi. C'était un grand truc formidable. J'ai fait mes études en Italie, mais dans un collège français, et pas loin de Monaco d'ailleurs. C'était à Bordighera, donc à 25 km de Monaco. Mais quand je passais la frontière, tout de suite après, je me trouvais en Chine, parce que j'étais petit, et puis j'étais décentré, enfin. Ça a été une affaire considérable. J'étais en prison, quoi. Les petits enfants qu'on met au collège, il ne faut pas oublier qu'on les met en prison, d'une façon vraiment unilatérale. On met toujours les gens en prison d'une façon unilatérale, puisque ce sont les gens qui sont dehors qui mettent les autres dedans, n'est-ce pas ? Enfin, il y a tout de même des raisons, toujours. On les met parce que, pour se garantir de leurs excès. Mais pourquoi se garantir des excès d'un petit garçon de 9 ans et demi ? Moi, je suis rentré au collège, j'avais 9 ans et demi. Et un beau jour,
on m'a lâché. Collège religieux aussi ?
Collège religieux, oui. Et un beau jour, on m'a lâché comme ça, puis ma mère m'a accompagné à la gare, au mois d'octobre 1925, et tout d'un coup, je me suis retrouvé numéro 38. Et quand je suis rentré, on m'a appelé 38, et puis je me suis retrouvé dans un dortoir, on était une quarantaine. C'est une chose terrible, vous savez ça. Ah oui. Et mes parents ne faisaient pas ça. Ils n'avaient pas le sentiment qu'ils me mettaient en prison, bien sûr. Ils faisaient ça, on dit, pour mon bien, n'est-ce pas ? Voilà. On ne peut pas se révolter. C'était une époque où on ne se révoltait pas, où la violence était contenue, bien rentrée. J'ai bien su la rentrer, et après, quelque chose a fait que je l'ai sorti, n'est-ce pas ? Et j'ai eu les cris qu'il fallait, peut-être, pour l'exprimer.
Deuxième œuvre choisie par vous, Léo Ferré, Ave Verum de Mozart.
Oui, c'est encore une œuvre vocale. Mais alors, ça, c'est pour une raison particulière. Un jour, je parlais à quelqu'un, enfin, depuis que je fais ce métier, il n'y a pas tellement longtemps, et on parlait de ce métier des variétés, qui est un métier difficile et sujet à d'incessants marchandages de la part des gens qui nous font travailler. Parce que nous sommes toujours les jouets de quelqu'un. C'est-à-dire qu'entre nous, entre moi, puisqu'il s'agit de moi, et le public, il y a des gens au milieu, qui sont des marchands. Des fois adroits, mais le plus souvent maladroits, et toujours avec les dents très longues, n'est-ce pas ? Alors que nous avons les dents, des fois pour mordre, mais nous mordons toujours avec noblesse, quelquefois avec talent. Mais eux, non, mordent mochement, par derrière, vous comprenez. Et alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle le jukebox, ces boîtes qui sont dans les cafés, qui font beaucoup de bruit. Et C'est aussi valable pour certains postes qui passent des chansons à longueur de journée pour les mettre dans la tête des gens. Et on m'a dit, une chose surprenante d'ailleurs, que plutôt moi je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, du moment que j'entends souvent quelque chose à la radio, bon, j'ai plus envie d'entendre, donc je n'achète pas le disque. Il paraît que c'est le contraire. Plus on l'entend, plus on achète. Alors, fort de ça, j'ai dit, et voilà, le jukebox. On impose donc des choses aux gens. On met dans un jukebox des chansons qu'on veut faire écouter pour que les gens s'habituent à ça et achètent le disque, n'est-ce pas? Et alors j'ai dit, si on mettait dans le jukebox la Veverum de Mozart, les gens finiraient par acheter la Veverum de Mozart comme on achète une chanson à la mode. Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé de passer la Veverum de Mozart.
Ave Verum, Köchel 618 de Mozart, par la chorale Philippe Caillard et l'ensemble baroque de Vienne, dirigé par Theodor Güchelbauer. C'est une œuvre tardive, peu avant de mourir. Vous en parlez, je crois, c'est dans la préface de Poète vos papiers, non? De la mort de Mozart.
Oui, où il est mort, accompagné, enfin.
Par le chien.
Par le chien. Et on ne sait pas où il est. On n'a jamais su où il était.
Non. Il faisait trop mauvais.
Non, mais c'était pas mal de ne pas savoir où il est. C'est bien. Comme s'il avait été brûlé, disparu. Enfin. Vous savez, j'ai eu une impression terrible un jour. J'ai enterré, bon, j'ai des chiens, parce que j'ai eu beaucoup de chiens. Et enterrer un chien, c'est dramatique, bien sûr. Et en 68, j'avais un gros chien qui est mort d'une façon un peu mystérieuse. Je pense, je n'en suis pas sûr, je crois qu'on l'avait empoisonné pour des raisons un peu méchantes, bien sûr. Et ce chien avait disparu, j'ai fini par le trouver près d'un torrent, dans un endroit désert, il avait été mourir tout seul. Il était tout sec. Il y avait 8 jours qu'il avait disparu. Et on m'a dit, un docteur m'a dit, c'est parce qu'il a été empoisonné d'une certaine façon qu'il a séché comme ça. Et j'ai mis de la redescence, j'ai brûlé. Et j'ai le souvenir de ce chien beaucoup plus, comme il a, moins charnel, voyez-vous, beaucoup plus abstrait et beaucoup plus extraordinaire. Parce que je sais qu'il a disparu totalement. Le corps, ça n'a aucune importance, n'est-ce pas? Ça me fait penser à ça.
Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Qu'importe, aujourd'hui le catalogue Köchel est devenu le bottin de tout musicologue qui a fait au moins une fois le voyage à Salzbourg. L'art est anonyme et n'aspire qu'à se dépouiller de ses contacts charnels. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. Les tables des matières ne s'embarrassent jamais de fiches signalétiques. On sait que Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme, que Beethoven était sourd, que Ravel avait une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique, qu'il fallut quêter pour enterrer Béla Bartok. On sait que Rudebeuf avait faim, que Villon volait pour manger, que Baudelaire eut de lancinants soucis de blanchisseuse. Cela ne représente rien qui ne soit qu'anecdotique. La lumière ne se fait que sur les tombes.
Vous savez, on est toujours le fils de quelqu'un. Beethoven a été le fils de Mozart. Hein. On le voit bien dans ses premières œuvres, notamment dans la première et la deuxième symphonie. Cela dit, il avait tout de suite toujours ses accents extraordinaires. Celui-là, alors, c'était incroyable. Qu'est-ce que c'était, un grand orchestrateur aussi. Vous savez, tout est écrit dans Beethoven.
Le troisième mouvement de la 9e symphonie de Beethoven par l'orchestre Philharmonia dirigé par Otto Klemperer. Léo Ferré, Siegfried, les murmures de la forêt.
Oui, parce que je trouve que c'est simple et que des recherches contemporaines sur ces chants d'oiseaux sont inutiles après les murmures de la forêt aussi bienvenus d'une façon aussi simple. Voilà, ça m'a frappé, ça, beaucoup. Vous savez, avec les instruments, on peut faire tout et il faut pas... il n'est pas indispensable de refaire au piano bien des chants d'oiseaux alors qu'il y a les oiseaux, n'est-ce pas?
Vous pensez à Messiaen, là?
Je pense à Messiaen, oui. Et je ne critique pas Messiaen, au contraire, c'est un chercheur extraordinaire.
C'est une jolie recherche,
celle-là. C'est une jolie recherche, d'abord, oui. et puis, comment dirais-je, moi, ça me... Je suis plein d'admiration, mais ça ne m'émeut pas, vous voyez. Tandis que les murs de la forêt... ou bien même le chant de la sixième de la pastorale, par exemple. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien de plus. Ta-ta-ta-ta. Bon, c'est extraordinaire. Quoi. Mais la transposition musicale d'un chant d'oiseau, il faut que ça reste une transposition. On s'en fout de l'oiseau, en définitive. L'important, c'est l'homme qui est dans l'oiseau.
Les murmures de la forêt, de Siegfried de Richard Wagner, orchestre Philharmonia, dirigé par Otto Klemperer. L'œuvre que vous avez choisie ensuite, Daphnis et Chloé, la deuxième suite. Vous avez choisi l'interprétation de l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Leonard Bernstein. C'est un chef que vous aimez bien.
Que j'aime beaucoup. Et puis alors, l'œuvre est fantastique. Voilà. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à quiconque qui aime la musique, parce que quand on aime la musique, on connaît Daphnis. Et le lever du jour, particulièrement, j'ai toujours dit, et c'est une chose que je pourrais faire, je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas. Je voudrais, comme ça, bêtement, et puis... adorablement pour Ravel, me réveiller, qu'en me réveillant le matin, on mette le lever du jour. C'était extraordinaire, formidable. Et c'était un type, vous savez, Ravel, qui était contenu lui aussi. Je ne sais pas si c'était la violence qu'il avait contenu, mais il s'est délivré d'une sorte de gigantesque besoin de chanter qui, contre carré autre chose peut-être, qu'il n'avait pas ou qu'il n'avait jamais eu, et qu'il n'a jamais eu, je pense. Et tout cet amour rentré, qu'il aurait peut-être voulu donner à quelqu'un, il nous l'a donné à nous tous. C'est formidable, vraiment.
Et dans l'expérience que vous vivez actuellement, direction d'orchestre, vous avez choisi justement Beethoven et Ravel.
Oui. Et parce que c'est les deux grands mecs. Pour moi.
Avec cet extrait de la suite numéro 2 de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel s'achève la première partie du concert égoïste de Léo Ferré, une émission de Claude Maupomé enregistrée en novembre 1975, dont vous pourrez écouter la suite demain. Le programme, la réécoute et le podcast de cette archive sont disponibles sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation avec Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.